distingue, les cigognes sont immortelles. Ça se passe au Congo. Expliquez-nous le rapport entre la cigogne qu'on croyait strasbourgeoise, voire soviétique à l'époque du mélo, quand passent les cigognes, et le Congo.
Il faut toujours apprendre des choses sur les animaux. Les animaux sont des philosophes en quelque sorte. Oui. Quand vous écoutez, c'est une chanson russe qui s'appelle « Quand passent les cigognes ». De cette chanson rouge, soviétique, j'ai extrait en quelque sorte le titre de ce livre, Les cigognes sont immortelles.
Car vous la chantiez quand vous étiez
petit. Nous la chantions, on nous disait justement que les cigognes qui passaient au-dessus de nos têtes étaient des soldats russes morts à la guerre, etc.
Mais immortels.
Et moi, j'ai mis comme immortels, comme cigognes, tous ceux qui sont morts pour l'Afrique, les Lumumba, les Medibane Barka,
les indépendantistes.
Etc.
On va en parler dans un instant. D'ailleurs, vous chanterez la chanson In Extenso pour le site internet de l'émission. C'est un scoop. Mais en attendant, la règle de 3, votre portrait par Gaël Legras, Alain Mabankou. Regardez.
Un dictionnaire, une tête, un continent, c'est la règle de 3 d'Alain Mabankou. Le dictionnaire, c'est le Petit Larousse. Il y a fait son entrée l'été dernier. Trois romans sont cités dans la définition d'Alain Mabankou. Tout d'abord, Vers cassé, publié en 2005, Petit Piment en 2015 et Mémoire de Porc Épic, qui lui a valu le prix Renaudot en 2006.
Ça représente le combat que je mène pour que les littératures africaines ne soient pas toujours mises au rez-de-chaussée des lettres françaises.
Mais on le sait, le Petit Larousse résume. En tout, il a publié une douzaine de romans, de nombreux essais et recueils de poèmes, et il est traduit dans 15 langues. Ce qui, tout le monde est d'accord, valait bien quelques lignes dans un dictionnaire.
C'est une sorte de canon. Inattendue.
La dette, importante, il l'a contractée envers les auteurs qui l'ont inspiré et fait écrivain. Dans Le Monde et mon langage, il paie une partie de cette dette en évoquant par exemple Jean-Marie Gustave Le Clézio, Dany Laferrière ou encore l'écrivain haïtien Jean Metellus.
Je pense que la poésie, à l'égal de la religion, a la vocation de réunir le monde entier.
Son continent, même s'il vit en Californie où il enseigne la littérature de langue française à UCLA, est le continent africain. Son continent en mer, comme il l'appelle.
Je ressens de plus en plus le besoin de dire ce qu'est mon continent.
Il l'étudie dans ses essais comme « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui » paru en 2016 et on le sollicite souvent pour « Penser l'Afrique » donc, comme ce fut le cas au Collège de France la même année.
La littérature africaine, image d'épinal et ghettoisation éditoriale.
Faute de pouvoir entrer au Congo où il est interdit de séjour depuis 5 ans, Alain Mabankou y retourne donc aujourd'hui dans son dernier roman « Les cigognes sont éternelles ».
Éternel, mais surtout, comme l'atteste le titre, immortel, Gaël Legras, les cigognes. Un pays et trois journées, 19, 20, 21 mars 1977, vu par le truchement d'un regard faussement naïf, celui de Michel. Il a 11 ans. C'est vous qui avez vécu tout ça jusqu'au drame?
Je pense que j'ai vécu cela quand le président congolais, en 1977, a été assassiné dans son palais. J'avais 11 ans. Donc la connaissance même de l'assassinat politique des coups d'État, on le savait. Et puis nous étions en quelque sorte impliqués à l'intérieur, comme je l'explique dans le roman, parce que nous avions un oncle qui était très proche du président de la République et qu'on a voulu lui faire porter le chapeau. C'est trois jours. Le 19, 20 et 21 mars 1977, ce sont trois jours qui ont donné peut-être l'exemple dans tous les continents de ce qu'était devenu l'Afrique après les indépendances. La plupart des dirigeants étaient assassinés, comme celui qu'on voit sur l'image, Marien Wabi. Mais il y a eu les Oumniopé qui ont été assassinés. J'ai cité tout à l'heure les Medibane Barka, mais bien avant les Lumumba. Donc c'est... Après les indépendances, il y a eu une sorte de décapitation de ce que j'appelle les cigognes sont éternelles et la voix de l'enfant permet de le raconter avec la naïveté.
Alors justement,
c'est un roman sur l'Afrique, c'est un roman sur la France. Est-ce que c'est aussi un roman sur le communisme? Parce que votre pays, le Congo, était une dictature marxiste-léniniste à l'époque. Votre écriture, la pensée d'un enfant, rend encore plus artificiel ce qui était pourtant une langue courante dans beaucoup de pays. Est-ce qu'au fond, un jeune Polonais, un jeune Cubain, je ne sais pas, aurait pu écrire le même livre dans son contexte?
Je pense que les dictatures n'ont pas forcément les mêmes couleurs, mais elles ont les mêmes conséquences. En l'occurrence, le Congo-Brazzaville a connu une dictature dans laquelle on abrutissait les masses non seulement on les abrutissait avec l'idéologie marxiste-léniniste, mais on les abrutissait aussi avec les politiques locales qui disent que le président a été envoyé par Dieu, c'est le chef du village où il descend d'une ethnie nécessaire. Et moi, la voix pour parler de politique, je n'ai pas connu la politique à l'âge adulte, j'ai connu la politique à l'âge de l'enfance. Pour être en accord avec cela, eh ben, il me fallait dérouler un peu cette voie.
Ce qui est intéressant, c'est dans votre famille, la famille du narrateur, mais c'est oui. On écoutait Voice of America,
oui.
Comme dans les pays de l'Est, c'était la radio de l'Amérique ou de la CIA ou du gouvernement américain à destination des pays communistes. C'est-à-dire, on était en dehors du contexte africain tout en y étant totalement.
Tout en y étant, parce que la radio, c'était synonyme pratiquement de la culture. On ne pouvait pas acheter les livres, on ne lisait pas forcément, et il y avait cette radio qui nous donnait des nouvelles, la Voix de l'Amérique. Et j'ai voulu jouer justement avec les médias à l'intérieur, comment la radio nationale raconte l'histoire et comment les radios internationales racontent l'histoire. Tout cela se croise et nous devions faire la part des choses. Et moi, j'étais un enfant, j'écoutais tout ce qui se disait autour de moi. J'entendais que l'oncle a été abattu quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut changer de maison, qu'est-ce qu'il... Et c'est presque pour moi une dette que je rends, peut-être c'est le roman le plus grave et peut-être aussi dans lequel on rit le plus dans ce que j'ai écrit, parce que tout simplement, à l'intérieur, c'est un roman que j'ai écrit avec ma propre chair, avec mes propres angoisses, une parole qui ne pouvait pas sortir avant et qui ne pouvait que découler des livres comme « Demain j'aurai 20 ans » ou « Lumière de Pointe-Noire ».
Alain Mabankou, et des linéaments qui nous conduisent jusqu'à l'histoire contemporaine du Congo. En ce moment, Nadia, il se passe des choses terribles, tragiques, sanglantes dans les commissariats.
Absolument, c'est un drame qui s'est mué en affaire d'État. Ça s'est passé cet été, à la mi-juillet. On a appris la mort de 13 jeunes dans un commissariat. Ils avaient été interpellés par la police après la mort d'un homme dans leur quartier. Et ils ont été retrouvés baignant dans leur sang. Donc après cette garde à vue. Et à ces atrocités, il faut ajouter la réaction du gouvernement qui a nourri la colère des familles et la colère d'un peuple tout entier. Ils ont d'abord nié la mort de ces hommes. Après, ils ont expliqué qu'ils s'étaient entretués. Et puis finalement, ils ont accepté l'ouverture d'une commission d'enquête qui avait été réclamée très fortement par la Fédération congolaise des droits de l'homme. Ce qu'on observe, c'est une très forte mobilisation de la jeunesse, de la société civile, des écrivains. Est-ce que ce sont les signes d'un peuple qui se soulève, qui ne veut plus se taire?
Les signes, j'avais commencé déjà à les pronostiquer ou à annoncer depuis quand j'ai parlé de la révolution du bassin du Congo. Nous sommes dans une situation où il y a des 13 morts, il y a des gens qui meurent, on a des apôtres de la révolution qui sont en train de mourir. Le président de la République fait un discours le 15 août qui est la date un peu de la révolution et de l'indépendance au Congo-Brazzaville, ne cite même pas cela, ne s'occupe même pas de cette situation. Donc nous sommes face à un régime qui est en train de voir devant lui les signes kabbalistiques de sa destruction.
C'est inéluctable selon vous?
C'est inéluctable. Oui. Nul ne peut lutter contre l'éternité. L'éternité se suffit à elle-même. L'erreur des dictateurs, c'est de croire qu'ils peuvent régler la montre, qu'ils peuvent fixer l'heure de la révolution. Il est là, ses enfants qui sont morts, ce sont mes frères, ce sont mes cousins. Je ne peux pas rester indifférent. Je pense que tout est mis en alerte pour que dans les prochaines années, il faut qu'il y ait un changement.
Un changement radical.
Pas des changements qui vont laisser les mêmes noms au pouvoir. Il n'est pas question, par exemple, qu'un fils de Sassou Nguesso soit président de la République, alors nous aurions été les dindons de l'histoire congolaise.
Alain Mabankou, je voulais vous poser une question sur la francophonie, mais puisque vous citez Sassou Nguesso, vous n'arrangez pas votre situation, vous qui êtes interdit de séjour au Congo, puisque dans votre roman, vous évoquez sa présence, son appartenance au complot.
C'est de l'histoire. Il est clair que le président congolais a été assassiné le 18 mars 1977. Et après cet assassinat, on a constitué ce qu'on a appelé le comité militaire du parti. La prise de pouvoir, la rapidité, les exécutions font de sorte que les criminels, peut-être que jusqu'alors qu'on a condamné, ne sont que des pantins, comme je le fais dans le roman. Voilà.
Voilà, un roman extrêmement recommandé pour comprendre aussi et pour entendre la voix du petit Michel sous l'arbre à palabres, sa deuxième école à Pointe-Noire. Merci d'être venu célébrer finalement la rentrée littéraire et la rentrée tout court dans 28 minutes ce soir. Alain Mabankou, c'est édité aux éditions du Seuil.